Punk, c'est un mot anglais qui veut dire minable, moche. Les punks se font remarquer par une tenue volontairement minable, provocante, preuve qu'ils attachent peu d'importance à ce qui peut paraître important à d'autres personnes. Les punks aiment la musique et en particulier le rock and roll, c'est pourquoi ils s'étaient réunis ce week-end à Mont-de-Marsan pour un festival punk.
Bon, je n'entrerai pas dans cette querelle tenace. Le chef-lieu du département des Landes aurait organisé le premier festival punk au monde le 21 août 1976. Disons qu'à tout le moins, l'ambiance était punk. Bonjour et bienvenue dans cette 20e visite de la saison 4 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com. Cette semaine, petite virée dans les débuts du punk en France, et donc direction le sud-ouest avec cet extrait de Une chanson, l'addition, le 5 juin 2020.
Mont-de-Marsan organise des courses de taureaux dès le XVIIe siècle. L'occasion déjà de mesurer l'esprit indépendant des Gascons en lutte contre les pouvoirs centraux, car malgré l'interdiction progressive de ces courses, eh bien les habitants ils maintiennent cette tradition, obligeant Richelieu, devant l'entêtement landais, à autoriser un cirque entouré de barrières et de gradins pour celle-ci. Un amphithéâtre en bois de 4000 spectateurs est donc dressé en alternance sur les places Saint-Roch et de la Tannerie. Amphithéâtre incendié en 1878 et remplacé par une construction en dur, achevée 11 ans plus tard. Les arènes tirent alors leur nom de son emplacement, les champs et vignes de la métairie du Plumasson, c'est-à-dire Petite Plume ou Duvet en gascon. Les agrandissements successifs, c'est-à-dire une chapelle en 62, puis une infirmerie et une écurie, eh bien tout ça donne de l'ampleur aux fêtes annuelles de la Madeleine. Ainsi, chaque troisième semaine de juillet, et en marge de la fête foraine, des animations de rue ou de la tauromachie, des concerts sont organisés. Alors, au départ centré sur des opérettes et groupes folkloriques, les arènes vont progressivement accueillir Aznavour, Polnareff, Dutronc, Stone et Chardin, sans jamais donc que le style ne soit rock.
La France pompidolo-giscardienne n'est guère plus souriante que notre voisine angliche. Les conservateurs, même sociaux, sont en costume trois pièces et au pouvoir. Guy Lux et les Carpentiers sont dans le poste et c'est la crise pétrolière. Fabrice Drouel sur France Inter en novembre 2017.
Alors, la musique devient un moyen de combattre la morosité ambiante. Et le punk fait du bien. Il est un exutoire, comme l'explique Alain Pacalis, journaliste spécialisé dans le punk et musicien punk lui-même. C'était en 1978 dans l'émission À suivre, qui ne fut jamais diffusée d'ailleurs.
C'est par rapport au mouvement hippie qui était un truc de non-violence, les gens qui étaient assis par terre à un concert, qui ne bougeaient pas. Et les punks, comme ils ont pris le contre-pied, c'est évidemment de bouger le plus possible. Et il y a tout un certain culte de l'image de la violence, comme dans le rock, qui fait partie du sadomasochisme, les colliers de chiens, tout ça. Et à Londres, c'est très très répandu. Dire un concert, tout le monde fait semblant de s'adresser, tout en se battant pas vraiment, c'est uniquement une image extérieure. Les gens dansent le pogo, se poussent les uns les autres jusqu'à ce qu'ils tombent par terre, mais quand même il faut attention à ce que personne ne soit vraiment blessé.
Progressivement, cette attitude désinvolte et brutale gagne les nuits parisiennes. De plus en plus de clubs accueillent cette population extrême avide de sensations. Les soirées voient aussi apparaître de nouvelles drogues. Les psychotropes dont les hippies étaient fans sont remplacés par des amphétamines qui poussent les corps dans leur dernier retranchement et gardent éveillés toute la nuit. Mais à Paris, pour le moment, ce n'est encore qu'une minorité de jeunes qui suit la mouvance.
Ce courant, qui peine encore à rassembler, eh bien il va notamment être amplifié par l'Open Market, une boutique de disques de la rue des Lombards à Paris. Une sorte de head shop à l'américaine qui vend bootleg, import, affiches, comics ou fanzines d'outre-Atlantique et d'outre-Manche. Eh bien tout ça va progressivement muter. Première extension, un label, Skydog, puis un réseau de distribution dans toute la France. Et enfin, année de l'élection de ce nouveau président, une branche de management comptant des groupes français comme Bijoux, Checking Street, Asphalt Jungle ou encore les Loose avant que des formations anglaises ne viennent compléter les rangs.
Et comme l'industrie ne suit pas, eh bien on fait sa propre mode à soi.
Alors tout le monde s'essaie à la couture, détourne des objets, donne des coups de ciseaux. Do it yourself sont les maîtres mots, fais-le toi-même. Les médias ne veulent pas parler de leur musique, pas de problème. On crée son propre journal et là encore, c'est la débrouille qui prime. On fait des collages, on écrit des textes qu'on photocopie à la chaîne, l'âge d'or des fanzines commence. Petit à petit, grâce à ces fanzines ramenées de Londres par des passionnés, c'est toute l'Europe qui est gagnée par le mouvement. À Paris aussi, les conservateurs découvrent cette vague provocatrice et ils s'en méfient. La France corsetée n'aime pas ces jeunes débraillés et drogués.
La mère d'un punk a voulu rester anonyme. Qu'est-ce qui vous gênait dans ce phénomène?
Elle a commencé à vouloir s'habiller un peu comme les punks. Mmh. J'avais découvert dans son armoire une veste déchirée, reprise par des épingles de sûreté. Et je lui ai dit que ça ne me plaisait pas.
Vous avez cherché à vous informer sur ce que c'était réellement?
Non, pas que j'ai cherché à m'informer, mais les revues hebdomadaires nous en ont informé. Les matchs, les L. Et mon fils disait que ce n'était pas la vérité, que ce n'était pas ça le vrai punk. Mais alors, je lui ai dit, mais c'est quoi alors? Alors il dit, mais c'est trop compliqué, vous ne pourrez pas comprendre, c'est une histoire de jeunes. Moi, il me semble que ce sont un peu les blousons noirs de l'époque qui reviennent sous une autre forme maintenant.
C'est encore l'automne de leur premier album en 77.
Tremblant face à ces nouveaux mouvements et tentant de raisonner la jeunesse française, le gouvernement va interdire les festivals de musique. Or, comme au XVIIe siècle, Mont-de-Marsan va à nouveau faire preuve de pugnacité.
Arte en octobre 2018.
Sous ces airs bonhommes, c'est André-Marc Dubos qui est à l'origine de ce petit séisme.
Au début des années 70, il ne se passait jamais rien quand même en rock dans la France. Et dans une ville comme ici, on s'emmerdait. Et donc, on a décidé de faire des concerts. Et on a fait un premier concert en 1973 et on a eu la chance d'avoir Nico. Elle avait joué avec Fellini dans La Dolce Vita. Elle était dans le Velvet Underground. Elle a tourné avec Warhol. Et la chance, c'est qu'elle est venue et elle s'est trouvée très bien ici. Elle est restée 3 jours. Elle ne voulait plus repartir. Et quand elle est remontée à Paris, son manager de l'époque m'a téléphoné, m'a dit « Qu'est-ce que vous avez fait à Nico ?» Et j'ai dit « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Elle saurait pendant tout Paris qu'il faut aller jouer à Mont-de-Marsan.
Pas ici a interviewé le producteur et manager toulousain Alain Lahana, pile 40 ans après, le 21 août 2016.
Un CV à faire pâlir Kim Jong-un, Bowie, les Stones, Téléphone, Paul Persson, Police, les Ramones, etc. Aujourd'hui, il manage encore la carrière de Patti Smith et le hip-hop. Alors, les merdeux, on se taise et on écoute.
Ça, c'est une mallette que j'ai retrouvée dans le grenier chez mes parents. Et c'est ma mallette de l'époque. Tu vois, avec les trucs, ben voilà, avant des agrafes, ça, c'était les concerts qu'on faisait à Toulouse. Et puis dedans, ben, t'as des trucs comme, voilà, la facture Mont-de-Marsan.
Et comment tu passes au festival Mont-de-Marsan? T'étais Mont-de-Marsan?
Non, non, non. Ça, c'est un truc qui s'est fait complètement par hasard. Mon pote, qui était le promoteur local, m'a dit « Tiens, je peux avoir les arènes gratos par mon père. » Et de là, on est allé aux arènes, on a marché aux arènes, et puis 4 mois après, il y avait le premier festival punk de Mont-de-Marsan.
Eh bien, nous avions organisé ici toutes les loges des musiciens, plus les espaces repas, bars, pour les musiciens. Ceux qui voulaient aller directement en piste, ils sortaient par les couloirs, ce qu'on appelle les chiqueros, c'est les couloirs où sortent les taureaux.
Sur les gradins, les musiciens arrivaient un peu plus tôt dans un gros bus jaune, vide des bières et profitent du soleil. Puis ils sont rejoints par la foule des passionnés et des curieux sur la terre battue des arènes de Plumasson.
Les Anglais, ils sont stupéfaits d'être dans une arène. Les punks, non mais franchement, alors là, ça leur passait au-dessus de la tête. Hein. Non mais je le dis, ils ne savaient pas que ça existe même. Hein. En particulier les Clash, on voit Police, on voit Sting dans les gradins.
Vers 17h, les concerts commencent. Des formations françaises peu connues enchaînent les 7 survoltés. On croise plusieurs têtes qui marqueront l'histoire de la musique en France, comme Ellie et Jacquenot, leaders des Stink Toys. En fin d'après-midi, ils balancent leur tube efficace, Plastic Faces.
Ellie, il faudrait, mais peut-être très vite, raconter comment vous vous êtes rencontrés. Pas, on s'est rencontrés au lycée.
Quel lycée?
Victor Hugo et Charlemagne.
Et alors, c'était une bonne ambiance?
Ouais, on était tous sous, c'était bien.
Tous sous?
Complètement, oui.
Et le groupe, le nom, ça veut dire exactement quoi? Toys, c'est jouets, et Stinky? Ouais,
c'est puant.
Des jouets puants?
Oui.
La chanson?
C'est Plastic Faces.
Plastic Faces, les Stinky Toys.
Autre mœurs, êtes-vous punk? Bon, c'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir. Si vous avez les cheveux courts, jaunes, verts ou rouges, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers la joue, si vous avez de petites croix nazies dessinées sur le front, bref, vous êtes un paumé et vous êtes un punk, c'est la traduction anglaise. Et si vous êtes punk, vous serez sans aucun doute ce soir ou demain à Mont-de-Marsan pour le premier festival de punk rock, la musique de ce nouveau phénomène social. Marginal, bien sûr, comme tous ces mouvements de révolte qui se sont succédés depuis les zazous, les rockers et les hippies. Avec le punk, la philosophie est simple, révolte intégrale, toujours plus loin dans la provocation.
Et merci les clichés, ce Gérard Holst qui à l'époque présentait le JT.
Heureusement, les Dames sont là pour faire honneur à leur mouvement. Captain Sensible, leur leader, est vexé de jouer avant les Clash, présentés comme la tête d'affiche du festival, alors qu'ils étaient déjà là l'an dernier. Captain Sensible n'a pas non plus apprécié le petit caprice de Joe Strummer, le chanteur des Clash, qui a fait afficher en fond de scène une immense photo de manifestants en train de se battre avec la police. L'image même qui orne la pochette de leur album. Pour les Dames, pas question de jouer dans ces conditions. Eux, ils sont là pour faire du son, pas de la politique. Les organisateurs lancent pendant le concert des Damned, une vache noire recouvre la photo des Clash. Mais ça ne suffit pas à les calmer, alors dans les loges, ils continuent à se chauffer à grand renfort de whisky et de speed. Puis c'est au tour des Clash, la bande de Joe Strummer, de monter sur scène pour jouer leur tube punk teinté de reggae. Et fomentent leur vengeance. Au milieu de la quatrième chanson, Strummer a beau gratter sa guitare de toutes ses forces, aucun son n'en sort. Derrière le rideau, Captain Sensible rond comme une barrique se marre. Il vient de débrancher les prises des amplis de ses ennemis et jubile. Le temps qu'on comprenne d'où vient la panne, une odeur immonde envahit la scène et gagne le public. C'est l'odeur des boules puantes que les Dames, de tels de petits gamins insolents, viennent de balancer sur scène. Le staff des Clash ne se laisse pas faire. Captain Sensible est projeté le dos en premier contre les barrières de sécurité. Il s'en sort indemne. Les drogues sont de bons anesthésiens.
Le commissaire de police de l'époque, qui ne voulait pas en entendre parler, il a dit « Moi, je ne peux pas assurer la sécurité de la ville ». Et lui, il est parti en vacances.
En réalité, les punks ne vont pas causer plus de dégâts que les vaches atlantaises ou les participants avinés des fêtes locales.
Tout s'est bien passé, donc la deuxième édition est dans la poche. Une chanson, l'addition.
Ah bah oui, mais réitérer l'événement n'est pas vraiment dans les goûts du maire de l'époque. Donc en pleine élection municipale, et preuve encore un peu de cette fronde locale, l'équipe va déposer une liste qui fera 5,5%, n'acceptant de la retirer au second tour qu'en échange de l'autorisation pour le 5 et 6 août 77. La mairie accepte.
Sauf que si les organisateurs ne bénéficient toujours pas de subventions, mais d'un faible budget de 40 000 francs, qui est quand même le double de celui de 76, le mouvement, lui, il s'est amplifié. Ce sont bien 4 000 spectateurs qui assisteront à l'édition mythique de 77. Une affiche sur deux jours qui se partage le rock du moment, et des deux côtés de la Manche, Dr. Feelgood, sans leur guitariste Wilco Johnson, qui vient de claquer la porte, le retour de The Damned, devenu le premier groupe de punk britannique à avoir sorti un album 6 mois avant. avant.
Et ça tombe bien, on a la copie d'un enregistrement pirate sur place. Si si, Mont-de-Marsan, QV77. Ok, le son va avec.
L'âge quand même, payé 600 livres et dont le premier disque est lui sorti en avril, ou encore The Police, payé deux fois moins et surtout se présentant en quatuor dont le Corse Henri Padovani. D'autres Français s'ajoutent également à la liste de la première édition comme par exemple Marie et les garçons.
Filmé en répétition dans leur garage par Georges Ray en avril 77.
Hexagonal, Asphalt, Jungle, dans lequel on peut retrouver le rock critique Patrick Oetli.
Hey, toi dans la rue, tu traînes et craches sur les voitures, tu fais la chasse à l'huile le dimanche après-midi, quand ta télé est cassée, tu as 16 ans et rien à foutre, tu n'es qu'une génération. Balance tes chemises, tes giclées de rouge acrylique. Tu n'as pas de futur et pas de passé. Rien qu'un nom de code, Rick Darling, Missandei ou Sylvie Chias. Quand tu portes, tu rendras ça. C'est la grande déconnexion. Je te viens d'une le vieux monde. J'arrive sans sommation. C'est la grande déconnexion.
Quant aux spectateurs, on y croise Élie et Jacques Tenaud, Bernadette Lafont, Jacques Higelin, Jackie Berroyer, venu couvrir l'événement pour Charlie Hebdo, qui se souvient surtout du nombre impressionnant de crachats, ou encore le tout jeune Yuri Lanquette, futur ami et dernier photographe de Kurt Cobain.
Et les seuls incidents qu'il y a eu, 12 canards volés, une vitrine cassée, les bistrots étaient pleins, il y a eu des achats un peu partout, et j'ai eu en particulier une dame qui tenait une parfumerie, et qui m'a dit, vous savez, j'ai très bien travaillé pendant votre festival. Ah bon? Je lui ai dit quand même que je ne comprenais pas. Elle m'a dit, si, si, j'ai vendu tout le mascara, les trucs pour les yeux et tout, pour les maquillages, pour les punks. Elle a vendu des tas de trucs.
Ce qui n'empêchera pas The Jam d'être arrêté pour s'être baigné, par exemple, dans la fontaine municipale. D'ailleurs, sur la place, il y a même un type qui réalise des coupes punk pour 5 francs. Tandis que le guitariste de The Clash, qui regarde du mauvais côté en traversant, bah, lui, il se fait rouler sur le pied avant de rejoindre les arènes. Bon, plus de peur que de mal, il y a surtout eu une paire de Creepers en moins. La palme revient évidemment à The Damned, décidément, dont le chanteur urine depuis la fenêtre de sa chambre de l'hôtel du Sablard. Lui et sa bande tenteront également de mettre feu au disque de The Clash, vexés que le disquaire du coin ne vende pas les leurs. Bon, tout ça avant évidemment d'aller trinquer avec les parachutistes locaux.
Et alors ces fameux débordements du public, hein, dont craignaient les autorités, eh bien en 77, on recense 12 canards volés, une vitrine cassée, et puis bah surtout, mais le lendemain du festival, une des portes des arènes qui a été attaquée à coups de cocktail Molotov. Ouais, sauf que les auteurs ne sont pas forcément ce qu'on croit.
Un jour, il y a quoi, il y a 7 ans, 8 ans, il y a un type qui m'aborde, il me dit... J'ai été militaire à la base, c'est moi qui ai jeté le cocktail contre la porte. C'était un parachutiste. Il avait chiffonné une mobilette qui était devant et ils avaient fait le truc. Le seul autre incident, il y a eu une vitrine cassée. La vitrine d'une épicerie de luxe. Il y avait tous les alcools qu'on ne trouvait pas à l'époque. Et les mecs ont piqué des bouteilles. Le propriétaire me dit, ne vous en faites pas, monsieur Dubois, ne vous en faites pas. Je suis très bien assuré parce que la vitrine, tous les premiers de l'an, elle est cassée. Pour des gens qui me piquent des bouteilles. Alors j'ai dit, ah bon, ben. Et puis surtout, on lui avait pris tout le stock à lui, pour les groupes, pour le catering, il y avait des exigences de tel whisky, tel machin, il n'y avait que chez lui qu'on les trouvait. On lui avait fait une grosse commande.
Loin d'être anecdotique, le festival aura une influence immédiate sur le monde de la musique.
Oui, alors, si The Police s'est produit exceptionnellement en Quatuor à Mont-de-Marsan en 77, c'est tout simplement parce que Andy Summers y est invité pour faire un essai. L'autre guitariste et unique français dont je vous parlais, parmi les cofondateurs du groupe, eh bien, quittera The Police à son retour à Londres. Les parisiens Check-In Street signent eux dans la foulée avec CBS. Son co-guitariste Louis Bertignac et sa bassiste Corinne Mariano, eh bien, rejoindront Téléphone 15 jours plus tard, avant qu'il ne soit signé par Pathé Marconi. Bon, on peut noter une trace du passage de The Clash, qui sera vendu sous le manteau, hein, via un vinyle pirate. Quant aux français Marie et les garçons, John Cale, l'ex The Velvet Underground, produira leur premier album l'année suivante.
Et nous voici rendus à la fin de cette 20e visite de la saison 4 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans. Rediffusion le lundi à 17h30, podcast sur le site radioalpa.com et retrouvez l'intégrale des visites sur la page Facebook et le Mixcloud de l'émission Le Panthéon des Cousus. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans l'un des groupes français qui, en remontant, fut inspiré par la ville rose. Little Bob Story nous chante à Riot in Toulouse. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et prenez soin des autres comme de vous.
The feeling is around. jamais, ça, c'est pour faire chez le monde, ça.